Nous terminons en ce moment notre parcours sur la vie de David. Beaucoup ont été fidèles pendant ces 10 semaines où nous avons pu approfondir la vie et les expériences multiples de David, roi d'Israël. Et s'il y a eu énormément d'expériences, énormément de choses que David a vécues, il a dû confronter quelque chose dont je voudrais vous parler ce matin. Quelque chose de manière multiple. Il va dire ceci au psaume 3 déjà. « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux !» Il va dire au psaume 13 « Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il au-dessus contre moi ?» Psaume 43 « Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ?» Il va parler dans les psaumes lui-même plus de 90 fois sur la thématique des ennemis. Mon thème pour vous ce matin, comment me comporter face à nos ennemis? Vous allez me dire, mais pasteur, ce n'est pas nous le public auquel il faut s'adresser. Nous, on n'a pas d'ennemis quand même. Un chrétien, il est gentil, il est doux, il est serviable, il fait du bien, il n'a pas d'ennemis quand même. Si vous faites le bien, si vous faites tout juste, si vous parlez correctement, si vous êtes rempli du caractère de Christ, vous n'avez pas d'ennemis. Ah, j'entends que certains sont d'accord, d'autres pas. L'homme parfait qui a vécu sur cette terre, qui a fait tout juste, avait-il des ennemis? Ben, la journée d'aujourd'hui, c'est dimanche des rameaux, ils ont crié « Hosanna ». Ils l'ont applaudi, ils ont fait des courbettes devant Jésus qui rentre à Jérusalem et quelques jours plus tard, cette foule, on ne sait pas si c'était exactement les mêmes, mais en tout cas la foule criait « Crucifie, crucifie ». Les ennemis étaient bel et bien là et David a eu affaire à beaucoup, beaucoup d'ennemis. Et voyez-vous, ces ennemis à David l'ont obligé de considérer sa vie, l'ont obligé de voir où en était son propre cœur et ses propres attitudes, ses propres paroles. Et souvent, quand il écrit dans les psaumes, à quelques reprises en tout cas, il dit « Seigneur, il faut juger mes ennemis, il faut qu'ils soient terrassés, il faut les souffler d'un coup, il faut les balayer du revers de ta main, il faut les juger, séance tenante. » Il n'écrira pas que ça, il va écrire d'autres choses aussi. Car les ennemis sont parfois posés sur notre route pour nous enseigner certaines choses. Et David a été obligé, au travers de ses ennemis, à sans cesse avoir recours au Seigneur et à rester dépendant de lui en toute chose. Il n'a pas permis que la haine, l'amertume, la vengeance brisent l'onction royale qui était sur lui. Voyez-vous, frères et sœurs, le Seigneur nous donne à tous le Saint-Esprit au travers de la conversion, au travers de la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vient, mais il faut que nous puissions rester dans la présence du Saint-Esprit et ne pas briser cette onction que Dieu nous donne, pas attrister le Saint-Esprit par ces pensées qui peuvent nous habiter ou venir frapper à notre porte. David a pris comme référence ce texte extraordinaire qui est un texte, je dirais, qu'on pourrait mettre comme titre, comme sous-titre en tout cas à ce message, « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Est-ce qu'on veut le dire ensemble, ces textes importants? C'est un texte biblique. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il va aussi apprendre que Dieu va faire justice face aux ennemis. Il va faire justice en son temps. Voyez-vous, lorsque nous sommes parfois confrontés avec l'animosité ou face aux ennemis, nous aimerions nous-mêmes faire justice. La parole tout à l'heure, lâcher prise, c'est quelque chose qui n'est pas facile lorsqu'on est confronté à des ennemis, à des choses difficiles, à des gens qui nous en veulent ou qui nous traitent injustement. Nous voudrions que justice soit faite rapidement, mais surtout notre justice. Et puis, le danger, c'est qu'on puisse regarder, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est de mon avis? Et on regarde, ah, celui-là, je crois qu'il va être mon allié. Et je vais lui demander, qu'est-ce que toi tu en penses? Mais oui, tu as raison, il faut lui rendre un coup, il faut te venger, il faut faire quelque chose. Parfois, nous cherchons un allié pour pouvoir avoir raison. Et David va apprendre tout ça, toutes ces leçons, il va les apprendre. Et il va finalement conclure en disant, la justice de Dieu, c'est la seule valable. La mienne, elle ne fait pas l'œuvre de Dieu. C'est exactement ce que le Nouveau Testament confirme aussi. Et David, ce qui nous frappe dans ces six livres, puisque Samuel, roi et chronique sont les livres des rois, mais en tout cas, on peut dire au moins une soixantaine de chapitres constituent sa vie et tout ce qu'il a vécu. David va se faire remarquer par une chose que même son propre peuple et même ses proches et ses généraux ne vont pas comprendre. Il va se lamenter, pleurer lorsque ses ennemis sont morts. Ça va jusque-là, au point que lorsque l'ennemi va avoir mal, alors que la tendance naturelle serait de dire « Ah, bien fait pour lui. Maintenant, c'est le juste retour des choses. Maintenant, tu reçois le revers de ta pièce, ça te revient maintenant. Tu l'as bien mérité. Et Dieu m'a justifié. » C'est ce qu'on pourrait croire, humainement parlant. Mais David va prendre le sac et la cendre, il va écrire carrément des textes, des poèmes de lamentation et de tristesse lorsque ses ennemis meurent. Ça, c'est l'image, c'est le résultat d'un cœur transformé. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons nous laisser toucher et transformer? Vous savez, j'aime bien rappeler ces deux choses souvent ensemble. Toucher, oui, mais transformer, c'est mieux. Toucher, c'est bien, mais transformer, c'est mieux. Et Dieu désire un cœur transformé, que nous puissions lui ressembler, lui qui a remis toutes choses entre les mains du Père et qui a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus était libre pour leur pardonner, même à la croix. Il va écrire donc dans de nombreux psaumes tout ce qui concerne ses ennemis. Et il va aussi se réjouir lorsque Dieu prendra sa défense. Il va éclater en louange dans le psaume 18, il est dit « En préambule, il est dit, lorsque David fut délivré de tous ses ennemis, il va dire, « Ô Dieu, je t'aime, mon rocher, ma forteresse, mon abri, mon asile fort, etc. » Il va éclater en louange. Sa louange sera d'autant plus forte que sa délivrance aura été grande face aux ennemis. Lisez avec moi dans 1 Pierre chapitre 2, verset 19. 1 Pierre 2, 19, 23. 1 Pierre 2, 19, 23. « C'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » Quand on souffre injustement, Dieu dit, c'est une grâce. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce. Il le répète pour la deuxième fois, c'est une grâce devant Dieu. Il va même plus loin. C'est à cela que vous avez été appelés. Waouh! C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Christ est notre exemple. Afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait pas d'injure, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il faudrait qu'on souligne cela dans nos Bibles un petit peu, ce texte, de nous rappeler, alors que nos réactions humaines et charnelles veulent remonter à la surface spontanément, un peu comme un bloc de glace que vous essayez de mettre sous l'eau, il va ressurgir lorsque vous aurez enlevé votre main. Il y a quelque chose qui surgit naturellement, même pour le chrétien qui a 10, 20 ou 50 ans d'expérience. Et Dieu dit, il y a des traces à suivre, les traces de Jésus. Tu vas prendre exemple sur Jésus qui était animé de l'Esprit de Dieu. Et David a été animé de l'Esprit Saint. Il avait reçu cette onction. Et ce matin, vous avez aussi l'onction du Saint-Esprit pour avoir les mêmes réactions que Jésus avait et les mêmes réactions que David avait et qui vont nous inspirer ce matin. Nous allons approfondir un peu tout cela. C'est à cela que vous avez été appelés. Donc, être confronté à des ennemis, ce n'est pas un manque de spiritualité ou un manque de consécration. Les ennemis peuvent surgir subitement, parfois là où on ne s'y attend pas du tout. Et la Bible dit que nous avons été appelés à faire face correctement. David avait plusieurs ennemis et nous allons regarder un petit peu cela, en tout cas deux situations, dont une on va s'attarder plus en avant. Il y avait tout d'abord les ennemis de toujours, Goliath en tête. Comme il était grand, ben les autres sont plus petits, ils vont suivre. Les Philistins et tous les peuples aux alentours, c'était les ennemis que j'appellerais les ennemis de l'extérieur. Les peuples menaçants, les ennemis qui ont directement cherché à nuire à Israël, etc. Nous allons en parler courtement, mais nous allons surtout nous attarder un peu sur les ennemis qui étaient proches de David, qui étaient même dans sa propre maison. Même dans sa propre maison. Puis, troisièmement, il y avait aussi les ennemis qui étaient en lui. Il va dire dans toute une série de psaumes, il va ouvrir son cœur et laisser transparaître ses peurs, sa solitude, ses multiples combats intérieurs. Il ne cache pas ses envies, ses angoisses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il souhaite bien sûr, dans certains passages, la mort de ses ennemis. En tout cas, il répand son cœur d'une manière très, très, très ouverte devant Dieu. Et parfois, il laisse transparaître l'intensité de l'épreuve et des combats. Comme nous l'avons dit, le chrétien, même le plus gentil d'entre tous, ne cherche pas des ennemis. Nous ne sommes pas de ceux qui déclenchons les conflits. Amen. Mais nous sommes peut-être de ceux qui procurent, et certainement même de ceux qui procurent la paix, qui tendent des mains et qui construisent des ponts pour réconcilier les gens. Nous ne sommes pas de ceux qui déclenchent des conflits. Nous sommes appelés à aimer, à bénir, à prier, à faire du bien. Et alors, pourquoi s'élève l'opposition ? D'où viennent les attaques et les violences parfois ? La méchanceté contre des gens qui ne font que du bien ? D'où ça vient cela ? Avez-vous remarqué que Jésus, dès le début de son enseignement principal, qui est le sermon sur la montagne de Matthieu 5, 6, 7, va dire ceci directement dans les premières phrases. Il va dire « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et il va rajouter « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. » Il n'a pas dit qu'on dira du mal parce que vous avez dit du mal ou répandu des critiques, mais qu'on dira faussement de vous du mal. À cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avec vous. Dans Jean 15, verset 20, il est dit, « Souvenez-vous, la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Donc à cause de notre foi, nous ne devons pas nous étonner qu'il y a de l'opposition, de l'adversité et des ennemis qui se lèvent, que vous n'avez pas cherché, que vous n'avez pas provoqué, que vous avez même béni et pourtant. Donc, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ne soyons pas étonnés de la fournaise qui est autour de vous et parmi vous, dira l'apôtre Pierre encore une fois. Quelle attitude adopter ? Ce matin, je ne voudrais pas vous parler du pardon, mais la dimension du pardon est essentielle. Je ne voudrais pas non plus vous parler de la dimension de la patience. La patience est importante. On pourrait parler de supporter. Il y a beaucoup de textes qui nous encouragent à supporter. Nous avons tous des épaules pour supporter des choses. Chers parents, n'est-ce pas vrai ? Supportons parfois des choses désagréables, en famille aussi. Alors nous supportons. Parfois, nous devons prendre de la distance. Oui, nous ne vivons pas dans un petit monde gentil de bisounours. Il y a des attaques. Ne vous étonnez pas si le monde a de la haine pour vous. Mais je n'ai rien fait de mal. Je prie pour le monde. Je sers le monde. Je suis gentil. Je fais des sourires. Je salue quand on ne me salue pas. Je tends la main quand on ne me donne rien. Je suis correct et je suis honnête et je ne fais rien de mal. Et le monde a de la haine. Pourquoi ? Jésus nous l'a dit. Ne vous étonnez pas. C'est vrai que c'est étonnant, mais ne vous étonnez pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà pourquoi le monde génère cette haine. Parce que l'Esprit qui est en vous est contraire à l'Esprit qui est dans le monde. L'Esprit Saint qui est en vous dérange l'Esprit du monde. Et ceux qui ont un autre esprit sont dérangés. Eux ne savent pas pourquoi. Et peut-être que vous ne savez pas pourquoi, mais aujourd'hui nous savons à cause de la parole de Dieu. Mais il y a une confrontation spirituelle invisible qui a lieu lorsque deux personnes d'un esprit contraire parfois sont en face l'une de l'autre. Donc le combat fait partie de notre vie. Permettez-moi maintenant de voir, c'est courtement la première zone de conflit à laquelle David a été exposé, puis ensuite la deuxième qui sera la partie principale de ce message. Il y avait Goliath, il y avait les Philistins, il y avait les peuples ennemis qui ont directement, ouvertement exprimé leur haine envers le peuple de Dieu, encore une fois parce que l'ennemi était opposé à l'élection d'Israël. L'ennemi déteste le peuple choisi, l'ennemi déteste les chrétiens et l'ennemi n'aime pas et il va ouvertement attaquer, agresser et mépriser le peuple de Dieu. Il va chercher à le bloquer, à le limiter, à lui faire mal. Mais David, le jeune, tout jeune David qui n'est pas encore roi mais qui a reçu l'onction, va arriver sur ce terrain où Goliath se dresse et bloque l'armée d'Israël et l'onction en lui va commencer à bouillir au point que lui va réagir parce que ce Philistin, cet homme animé de l'esprit diabolique, eh bien, va insulter Dieu. Et c'est ça qui va faire réagir David d'une manière considérable, tout jeune qu'il est. Et il ne va pas permettre que cet ennemi fasse n'importe quoi dans le pays élu, dans le pays choisi par le Seigneur. Et l'action surnaturelle, sa foi, la puissance du nom de Jésus, du nom de Dieu, eh bien, vont faire en sorte que sa fronde va tournoyer dans l'air et la pierre va frapper avec une précision chirurgicale le front de ce Philistin qui va tomber à terre et tout Israël va applaudir, bien sûr, va être libéré du même coup parce que l'action surnaturelle terrasse l'ennemi. Mon frère, ma sœur, c'est l'action surnaturelle de Dieu dans ta vie, au travers de ta bouche et dans ta foi qui va terrasser les ennemis de l'extérieur. Nous ne parlons pas des gens ici, nous parlons de l'ennemi spirituel qui veut te bloquer, qui veut t'empêcher de progresser, qui veut t'attaquer la nuit, le jour. Je reçois beaucoup de personnes qui m'écrivent, mais je reçois des rêves, je vois des animaux sauvages qui m'attaquent, je vois des gens qui veulent coucher avec moi. Il y a des attaques nocturnes ou bien diurnes, peu importe, mais ces attaques-là, frères et sœurs, vous pouvez les vaincre. On doit les vaincre parce que nous avons un esprit supérieur. Et le jeune David avait reçu que l'onction de Samuel. Mais lorsque, dans sa présence, dans cet amour qu'il avait pour le Seigneur, cette intimité qu'il avait chérie, frères et sœurs, lorsque vous ne chérissez pas suffisamment l'onction de Dieu, vous n'avez pas beaucoup de pouvoir. Pas grand-chose qui va bouger. Vous pouvez prier plusieurs fois, mais ça ne bouge pas. Parce que l'ennemi sait que vous n'êtes pas assez rempli de ce cœur entier pour Dieu. Il faut avoir un cœur entier comme David l'avait, un cœur consacré, un cœur qui chérit la présence de Dieu et qui prend du temps pour Dieu. Il était cet adorateur. Prenez du temps pour Dieu et vous allez voir que vous aurez, à ce moment-là, vous pouvez confronter dans le nom de Jésus, sans crainte et avec une foi calme, vous pouvez donner un ordre à cet ennemi qui vous dérange, cet ennemi invisible, vous pouvez vraiment le chasser vous-même. Et si vous n'y arrivez pas, nous allons nous mettre à plusieurs. L'Église, ça sert à ça. On est ensemble pour la libération des ennemis qui veulent bloquer l'action du Seigneur. Écoutez ces paroles. L'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel. N'ayez pas peur des malédictions. Je reçois beaucoup de demandes de l'Afrique, mais j'ai une malédiction sur ma vie. Quelqu'un me jette un sort et tout ça. Mais je dis, prenez position, mes amis. Soyez proches du Seigneur, vous avez une église, eh bien prenez position et ces choses vont s'arrêter, couper ces malédictions qui sont parfois imaginaires, mais parfois bien réelles. Et il faut dire, le Seigneur change la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Nombre 23, 23. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Parce que ce géant Goliath, il est dit qu'il maudissait Israël. Il maudissait. Donc l'action diabolique, c'est de dire du mal, et derrière ce mal se tiennent des esprits mauvais pour qu'il y ait un poids dans cette malédiction et que cette malédiction puisse intimider. Et la vraie clé, c'est qu'il faut renoncer à la peur. Les gens ont peur que ça pourrait peut-être avoir un effet sur moi. C'est la peur qui est votre problème. C'est la crainte qui est le problème, la peur. Cette peur vous paralyse dans votre foi. N'ayez pas peur, même si des sorciers vous ont maudit, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. L'Esprit de Dieu en nous est supérieur. Soyons remplis des promesses de Dieu. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est ça qu'il faut bien rappeler ce matin. L'ennemi Goliath, les Philistins et tous les peuples ennemis qui avaient leur divinité, qui combattaient le Dieu d'Israël, eh bien, ils ont été défaits de cette manière. Maintenant, nous allons toucher un domaine intéressant. Parce que David avait ce genre d'ennemis, mais comme je l'ai dit, il avait également des ennemis dans la proximité de sa propre maison. Des ennemis en chair et en os qui vont se lever et qui sont plus difficiles à traiter que Goliath. Plus difficiles et plus compliqués. Goliath, c'était simple. C'était quasi instantané. Une pierre a suffi et a propulsé David comme le héros de la nation. Maintenant, les autres ennemis qui vont se lever, ils seront bien plus compliqués à traiter. Et c'est là que se passe le labourage du cœur, le travail intérieur que Dieu attend de faire et va faire dans nos propres existences. Brièvement, que s'est-il passé? Nous savons qu'à un moment donné, il y avait deux onctions dans ce peuple d'Israël. Il y avait l'onction de Saül, le roi, qui était en place. Mais lui va perdre l'onction à cause de ses nombreuses désobéissances. Et puis il y avait l'onction de David qui n'était pas encore roi, mais il l'avait déjà reçu. Et ces deux personnages oints, l'un en déclin et l'autre en ascension, va créer des conflits. Tout d'abord, Saül va être en admiration devant ce jeune qui a terrassé le géant. Et il va aimer David au début. Il va aimer David, il va être « waouh ». Ce petit jeune, il me plaît, là. Je vais l'inviter dans mon palais, il va me jouer de la guitare, il va me jouer de la harpe, et ça va me faire du bien, parce que lui était déjà sous l'influence du mauvais esprit qui était en train d'agir dans sa propre vie pour le tourmenter. Et David va être tellement bien, dans un tout premier temps, mais de courte durée, devant Saül, qui va être un peu comme son modèle et son père spirituel. Parce que n'oubliez pas que David avait été oublié par son propre père. Vous vous souvenez de l'histoire? Il a été oublié par son propre père. Donc il va être très heureux de retrouver un père de remplacement en la personne de Saül. Il me dit, mais ça c'est vraiment un modèle et il me fait du bien et il m'aime bien. Je sens de l'amour et de la reconnaissance. Il reconnaît mon exploit. Alors que son propre père et ses frères avaient fait peu de cas de cette victoire. En plus de cela, Saül avait dit, celui qui va terrasser le géant, il va obtenir quoi comme récompense? Un bouquet de fleurs? Quoi? Qu'est-ce qu'il va recevoir comme récompense? Il va pouvoir se marier avec la fille du roi, Michal. La fille du roi lui sera donnée. Donc, le père spirituel et le roi d'Israël deviendra son beau-père. Ha. Pour compliquer le tout, David va se lier d'une amitié profonde avec le fils du roi, Jonathan. Donc il est intimement lié à la cour royale, où dans un premier temps, il va rencontrer beaucoup d'accueil, beaucoup d'amour, de l'affection, de l'amitié. Il va être lié par mariage à cette famille royale dans un premier temps. Mais le vent va tourner bientôt. Tout à coup, Saül a frappé ses 1 000, mais David ses 10 000. Le peuple va mettre comme David sur les premières pages de ses magazines People. Et il aura des likes sur Facebook à fond. Et Saül, il cherche désespérément 2-3 likes, il ne trouve personne qui l'aime. Et la jalousie va commencer à naître dans cette maison royale. Et David va être terriblement offensé par celui qui va être tellement jaloux. Lui qui devait être berger d'Israël, roi de la nation, son bon père va commencer à le tourmenter. Et là où devait habiter l'harmonie dans la famille, l'amour, la tendresse, l'encouragement, la paix, David ne trouvera que le contraire. Comment rester serein là au milieu? Frères et sœurs, est-ce que quelqu'un peut dire dans mon propre entourage, dans ma propre famille, j'ai espéré par mon mariage et par ma famille, j'ai espéré trouver l'amour, la paix, l'harmonie, l'encouragement, le bonheur total. Et je suis tombé de haut parce que, au fond, à bout de quelques années, je réalise que c'est pratiquement zéro. et que j'ai récolté le contraire. Combien de familles aujourd'hui, je voudrais parler de ça, souffrent de choses qui ont été un rêve extraordinaire au départ, mais qui dans la réalité se transforment en cauchemar. Et une difficulté et des larmes, la nuit sur son coussin, bien on pleure de ce que tous ses rêves sont en miettes. Saül en veut à mort à David pour qu'il n'y ait pour rien. Et cette confrontation dans la maison royale va devenir une grande faiblesse pour toute la nation. À l'intérieur du camp d'Israël, il y a une tension, il y a un malaise, il y a des conflits qui affaiblissent la vie spirituelle de tout Israël. C'est pour ça qu'il faut prier pour vos responsables. Parce que l'ennemi sait où il attaque. Et l'ennemi savait qu'en brisant l'harmonie et le courage de David et de faire en sorte que dans la maison royale même, il y avait mille et un conflits en permanence, il affaiblissait l'ensemble du pays et qu'ainsi les ennemis de l'extérieur avaient des avantages. Donc il devait se battre vers l'extérieur pour éloigner les ennemis qui voulaient envahir Israël et à l'intérieur, il avait des combats sans arrêt, sans arrêt. Donc David va être en fuite pendant des années. Il ne dormira pas dans le même lit, ni à côté de sa femme, ni dans le même endroit. Le palais sera plus qu'un souvenir lointain. Il sera dans les forêts, dans les déserts et les cavernes. Quelle perte pour le royaume d'Israël. Tout va dans le sens contraire. Et il aurait pu se dire, mais Seigneur, tu m'as donné l'onction par Samuel. Samuel, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un prédicateur de passage qui m'a imposé les mains. C'est le grand Samuel par lequel tout Israël a été élevé, le dernier juge en Israël. Il avait une renommée, je dirais, on va dire presque planétaire, tellement que c'était incroyable, le ministère de Samuel. C'est quand même lui qui m'a donné l'onction. Et Seigneur, maintenant, tout va dans le sens contraire. Personne ne reconnaît mes dons, mes promesses. Où sont-elles, Seigneur? Quelle trahison! Il est poursuivi, imaginez-vous. Lui qui était à la tête pratiquement de l'armée de Saül, qui remportait tous les combats. Par ce renversement et cette animosité, il va avoir ses propres hommes qui ont combattu avec lui, les avoir contre lui. Ces hommes sont en train de se tourner vers lui, le pourchasser de caverne en caverne, de forêt en forêt. C'est les mêmes qui étaient ses vainqueurs, qui étaient ses hommes, sont maintenant contre lui. Ceux avec lesquels il faisait bloc, qui étaient à ses côtés, c'est ceux-là qui se retournent contre lui. Quelle offense! Il fuit, il ne réagit pas, il n'attaque pas, il évite la confrontation, il n'en rajoute pas, il se protège comme il peut. C'est parfois la bonne réaction. C'est parfois la bonne réaction. Derrière tout cela, il y a le diable en personne qui veut briser, qui veut briser. Voyez-vous, il est bon de s'élever un petit coup, de ne pas voir que la situation conflictuelle. Élevons-nous un petit coup. Au-dessus, il y a quelqu'un qui pilote tout ça, qui utilise la jalousie, la haine, la méchanceté, la critique, les mauvaises paroles, le mauvais cœur des gens. Quelqu'un utilise, il aime ce terreau-là, il aime... Vous savez, il y a des terreaux où il y a toutes sortes d'animaux bizarres, des terreaux particuliers. Lorsque vous soulevez une pierre, tout à coup, vous verrez apparaître des bestioles qui s'enfuient parce que c'est des bestioles qui habitent uniquement dans le noir. Avez-vous remarqué ça? Il y a des animaux diurnes, puis des animaux nocturnes, des animaux qui sont à l'aise à l'extérieur quand il fait jour, puis d'autres qui sont à l'aise uniquement dans la nuit. Et lorsque, avec cette méchanceté, il y a toutes sortes d'esprits qui sont à l'aise avec des gens qui détestent, qui ont de la haine, qui critiquent, qui sont violents, qui conspirent, qui sont animés vraiment de ces mauvaises choses, le diable, il aime ce terreau-là. Frères et sœurs, que l'Église soit nettoyée de tout ça. Que l'Église soit nettoyée complètement et le Seigneur va commencer par travailler dans l'Église pour que le nettoyage se fasse jusqu'au dernier chrétien qui est là. Ça doit se faire pour que l'Esprit habite en nous et que nous ayons la force et l'autorité et l'onction du Saint-Esprit. Et c'est cette Église-là qui sera enlevée. C'est cette Église-là qui sera prise. Et ceux qui gardent leur cœur avec toutes ces choses nocturnes où se plaisent les mauvais esprits, toutes ces choses-là ne vont pas passer la rampe de l'éternité. Nous resterons là. Et au moment de l'enlèvement, il y aura un tri qui va se faire. Mais avant ça, il y a la parole de Dieu qui est prêchée. Ce matin, elle est prêchée. David, donc, se rend pas tout à fait compte qu'en fait, le diable veut briser sa destinée, veut briser son onction d'adorateur, veut l'empêcher d'écrire des psaumes, mais plutôt des poèmes de révolte, des cantiques guerriers, des cantiques, des retours fomentés, des coups d'État. C'est ça que le diable veut faire. Mais tu vas te venger, tu as raison de le faire. Mais le diable voudrait briser et détruire le projet de Dieu, parce que le diable sait que dans la destinée de David et dans sa succession et dans la suite, il y a quelqu'un qui va venir, le fils de David, le sauveur du monde. Et le diable veut empêcher ça, il veut briser David. Frères et sœurs, s'il y a des ennemis dans ta vie, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, si tu les as provoqués, ça c'est ton problème. Il faut régler ça. Si tu en es la cause, il faut régler les choses, s'entraîner. Ça me vient à l'esprit maintenant. J'ai accompagné bien des gens en fin de vie. Mais j'aimerais vous dire que les gens en fin de vie aimeraient encore régler des choses parce qu'ils sentent l'éternité approcher. Et il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Ils voudraient le faire, mais ils ne peuvent plus le faire. Ils ne peuvent plus. Plus la force, c'est trop tard. Ce n'est pas quand on est au bout du bout qu'il faut régler les choses. Je l'ai déjà raconté. Quand je suis arrivé ici en août 1999, très rapidement, une personne m'a demandé de la visiter. Elle était en fin de vie. Elle n'était pas de notre église, mais elle a pu se confier à un pasteur qui venait d'arriver, qu'elle ne connaissait pas, de quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à personne. Elle a été libérée juste au bon moment. Et puis j'ai pu faire l'enterrement, etc. Juste au bon moment. N'attendez pas la dernière pour régler les choses. N'attendez pas, mais faites quand il est possible de le faire. Je l'ai déjà raconté aussi. J'ai voulu, avec mon propre père, régler un truc qui était vieux de 35 ans. Un jour. Parce que j'y pensais encore. Et j'aurais tellement voulu qu'il s'excuse. J'aurais tellement voulu qu'il s'excuse. Parce qu'effectivement, il m'avait fait mal. Il m'avait vraiment fait mal. À l'époque où j'avais besoin d'entendre quelque chose de bien, j'ai reçu le contraire. Et ça a été comme un dard avec lequel je me suis traîné pendant très longtemps. Mais à ma conversion, tout ça, c'est parti. J'ai pu bénir, j'ai pu aimer. Et je n'y pensais plus, mais quelquefois, c'est revenu. Et lorsque j'avais un moment favorable après 35 ans, je me dis, je vais lui rappeler ça, tiens. Je vais le lui rappeler. Et je dis, papa, tu te souviens ce que tu m'as dit? Il m'a répondu, non. Et je dis, je vais te rappeler, moi, ce qui s'est passé. Et pendant que je lui parlais, je sentais le Saint-Esprit dire, mais arrête. Et je l'ai quand même dit, et puis il me dit, mais qu'est-ce que tu viens encore accuser un vieux bonhomme comme moi? Et j'ai compris que, une fois que c'est trop tard, c'est trop tard. Mais, là où je n'ai pas écouté le Saint-Esprit, c'est que Dieu m'avait depuis longtemps consolé de tout ça. J'étais libéré, mais je voulais qu'il s'excuse. Ça, c'est de la fierté et de l'orgueil. Je voulais qu'il présente ses excuses. Frères et sœurs, vous aurez, même si vous vous attendez des excuses et vous souhaitez que la personne qui vous a fait du mal s'excuse, déposez aussi ça. Parce que ce n'est pas garanti qu'elle viendra un jour s'excuser. Il y a mille et une situations où les gens ne s'excuseront jamais. Mais Dieu vous consolera pleinement. J'aimerais vous dire pleinement, pas seulement à moitié, mais pleinement. Dieu vous consolera complètement que les gens vous aient fait mille coups, personne n'est venu s'excuser une seule fois. Dieu vous a tout enregistré, a tout vu, et lui vous consolera malgré tout. Jésus pouvait dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Ça, c'est l'évangile, mes amis. Et j'ai compris beaucoup de choses au travers de cette petite histoire que je viens de vous raconter. Et David, dans chacune de ces crises, voyez-vous, là où je veux en venir, c'est que dans toute cette fuite qui a duré des années, où il était de caverne en forêt, dans les déserts, avec des petits groupes de soldats qui l'entouraient, eh bien, il était obligé de dépendre de Dieu. Il faisait recours à la prière. Il était proche de Dieu. Et une autre histoire dont je n'ai pas le temps de vous en parler, mais peut-être que je ferai un message là autour lorsqu'il s'agira de son propre fils Absalom. Dans cette histoire incroyable, qui est une histoire un peu différente, où il y a aussi un problème familial extrêmement important et gravissime, David ne va pas adopter la même attitude. Lorsque son fils voudra revenir, il le fera attendre. Il n'aura pas l'attitude du fils, du père du fils prodigue qui va l'accueillir, mais il va dire, attends, tu vas attendre maintenant. Le mal que tu as fait, tu vas payer maintenant, tu vas réfléchir. Il va le faire attendre pendant plusieurs années. Enfin, Absalom va dire, mais enfin, est-ce que je peux revenir à Jérusalem? Il le fait revenir, mais il ne le verra pas. Tu peux revenir, mais tu devras te cacher, je ne veux pas te voir. Aucun accueil. Donc David a gardé son cœur endurci quelque part. Il n'est plus vraiment dans la communion totale. Et là se passe quelque chose, frères et sœurs, écoutez, je ne peux pas détailler ça, c'est trop long. Dans l'endurcissement mutuel, le manque de prière qui assouplit ton cœur, dans cet endurcissement, un péché en entraîne un autre. Et le cœur d'Absalom, à un moment donné, en aura tellement marre de se sentir rejeté qu'il va commencer à faire un coup d'État. Et dans ce coup d'État, ben, il va s'opposer à son père, etc., etc. Il va mourir dans ce coup d'État. Et là, David va craquer à la fin. Il va pleurer sur la mort de son fils énormément. Mais il va aussi réaliser tout ce qu'il a raté en n'étant pas proche de Dieu. Frères et sœurs, ce que je voulais vous dire ce matin, soyons proches de Dieu lorsque nous sommes attaqués. Soyons proches de Dieu lorsque des ennemis sont autour de nous et nous font du mal injustement. Soyons proches de Dieu. On veut le dire ensemble, proches de Dieu, proches de Dieu. Maintenant, je vois que le temps passe, mais voir ce moment clé qui va se passer dans 1 Samuel 24. Je vais rapidement lire ce texte. Notez-le pour le lire à la maison et le méditer, s'il vous plaît. 1 Samuel 24, 5. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Saül est dans une caverne et les hommes de David sont au fond de la caverne. Et le texte nous décrit cette situation et là, il y a l'occasion rêvée pour en finir avec cet homme qu'il a tellement pourchassé. De toute façon, il est rejeté par Dieu. Pourquoi ne pas le traiter jusqu'au bout? Après cela, je souligne, le cœur battit. Parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ces gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » David reconnaît encore, après toutes ces années, que c'est lui, Saül, le vrai roi. Et que ce n'est pas à lui de l'éjecter, mais c'est à Dieu de le faire. Par ces paroles, David arrêta ces gens. Il était poussé par les gens. Mais enfin, David, t'as assez patienté. Vas-y, t'as le droit d'eux quand même. T'as vu tout ce qu'il t'a fait. Tu ne veux pas en finir enfin. Arrête de souffrir. David arrêta ces gens. Les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva, sortit de la caverne et continua son chemin. David se leva et sortit de la caverne et se mit à crier, « Ô roi, mon Seigneur !» Vous avez entendu ça? Il ne dit pas, « Hey, toi, mauvais roi qui m'a fait souffrir, tu ne te sens même pas coupable. » Il dit, « Ô roi, mon Seigneur !» Il respecte celui qui le fait souffrir. Saül regarda derrière lui. David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Vous imaginez jusqu'où il va. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu tes propos des gens qui disent, « Voici, David cherche ton malheur. » Il le remet en question. Il ne lui dit pas, « Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. » Il simplement lui dit, « Pourquoi est-ce que tu écoutes les gens par rapport aux choses que tu me fais ? Tu vois de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains. » Dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. J'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Regardez ça. Vois mon père. Souvenez-vous, c'est son beau-père quand même. C'est son père spirituel. Vois mon père. Je cherche en toi mon père et je trouve en toi mon persécuteur. Frères et sœurs, c'est une parole importante que j'aimerais vous dire. Il y a des personnes qui cherchent des figures de référence, des figures, des modèles, des exemples. Et ils trouvent dans ces exemples des gens qui les font souffrir. Alors nous avons Dieu comme notre exemple, mais que dans l'Église, il n'y ait pas ça. Dans nos familles, il n'y ait pas ça, s'il vous plaît. Qu'il n'y ait pas ça. David a tellement souffert de trouver enfin un père, un vrai, pour un petit moment dans la maison de Saül, et il trouve un persécuteur, quelqu'un qui l'empêche de prendre sa place, quelqu'un qui ne veut pas qu'il monte, quelqu'un qui ne sait pas encourager. « Vois mon père, le pan de ton manteau, je l'ai dans la main. J'ai coupé le pan de ton manteau et je ne t'ai pas tué. Sache, reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, que je n'ai pas péché contre toi. » Il est pur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Hein, on l'a dit tout à l'heure comme sous-titre. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je vais terminer là et je ne vais pas aller beaucoup, beaucoup plus loin. Ce matin, c'est déjà beaucoup. David, vraiment, est proche de Dieu. Il sent son cœur battre. Il fait ce qui est juste. Et il a l'attitude de Jésus, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Et David ne va pas se réjouir de la mort de son ennemi. Je termine par psaume 35, 12. Psaume 35, verset 12. C'est un autre verset de conclusion. David, dans ses nombreux textes, va prier pour ses ennemis. Voici de quelle manière il s'y prend. Versets 12 à 15. « Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. » Comme pour un ami, comme pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent à mon insu pour m'outrager et me déchirer sans relâche. David va nous inspirer ce matin. Ses ennemis lui veulent du mal. Mais lorsque soudain l'ennemi va mal, il est malade, il a un mauvais revers, il a peut-être le jugement de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait, David? Quand ils étaient malades, moi je me revais d'un sac et j'humilie mon âme par le jeûne. Il jeûne pour ses ennemis. Je ne sais pas, vous avez déjà jeûné pour vos familles. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà jeûné pour ses ennemis? C'est rare, c'est plutôt rare. Je prie la tête penchée comme pour un ami. Donc l'intensité de prière que vous faites pour un ami, David le fait pour un ennemi. Comme pour le deuil d'une mère, il prie de cette manière-là. Vous imaginez, la plus grande douleur, perdre sa maman, cette même douleur, il la ressent quand il prie pour ses ennemis. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et c'est là ma conclusion, parce que c'est exactement le sermon sur la montagne. Je veux me réjouir des bénédictions des autres et non pas me réjouir de leur malheur. Seigneur, je ne me vengerai pas, je garderai mon cœur plus que toute autre chose, je ne laisserai pas l'ennemi me voler l'intimité avec Dieu, je dirai comme Jésus, aimez vos ennemis, je bénis ceux qui me persécutent et je prie pour eux. Et je dis, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais au contraire, lorsque mon ennemi a faim, je lui apporterai même à manger. S'il a soif, je lui donnerai à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents qu'il s'amasse sur sa tête. Il se passe quelque chose. Dieu s'occupe de tes ennemis lorsque toi, tu t'occupes de Dieu. Amen, amen.